est une rediffusion.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à un enjeu international grandissant, permanent et invisible, la cyberguerre, qui a fait son entrée au début de ce siècle, transformant le réseau global en un lieu de confrontation militaire majeure. À quoi ressemble cette nouvelle guerre? Comment se passe une attaque? Internet et le numérique se sont-ils développés sans penser à la sécurité? Pourquoi cette carence? Faut-il une organisation internationale de la sécurité? Et quelle urgence y a-t-il à faire cesser le vide sécuritaire international du cyberespace? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant allié transformation au sein de l'OTAN. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Gergorin, ancien chef du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay et ancien vice-président en charge de la stratégie de ADS, le fabricant d'Airbus, aujourd'hui conseil international et enseignant à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Et Léo Isaac Donien, consultant en transformation numérique, chef de projet chez Capgemini. Bonjour.
Bonjour.
On fait généralement remonter les débuts de la cyberguerre mondiale à 2007, au moment du déplacement en Estonie d'un mémorial de guerre issu de la période soviétique. Des émeutes pro-russes éclatent dans la capitale estonienne. Peu après, des cyberattaques frappent le pays, provenance russe possible. Deuxième chapitre, Iran, en 2010, l'attaque baptisée Stuxnet qui s'en prend au programme nucléaire iranien, américains et israéliens sont montrés du doigt. Troisième chapitre, l'Ukraine, en 2017, avec NotPetya qui infecte en quelques heures et dans tout le pays les terminaux de banques, de magasins et infrastructures de transport. Le quatrième chapitre est-il celui qui est en train de s'écrire? En tout cas, le cyberespace est plus que jamais devenu source de tensions internationales, à tel point que l'OTAN l'a officiellement reconnu comme champ de bataille possible. Globalement, et c'est ma première question, est-ce que les pays ont pris la mesure du champ de conflictualité aujourd'hui? Général Paloméros.
Oui, alors je crois que dans l'historique que vous venez de faire, il y a un moment qui est crucial, c'est il y a 30 ans finalement. C'est 1989, c'est-à-dire on arrive à la fin de la guerre froide et dans le même temps, il y a cette création, cette émergence du World Wide Web, la création vraiment, la naissance du World Wide Web, au CERN d'ailleurs, et qui ouvre les portes d'un espace gigantesque d'échanges et de partage, de collaboration. Et à ce moment-là, on se dit, ça y est, la guerre froide est terminée, on a ces outils magnifiques qui vont nous permettre d'échanger, et on a le sentiment qu'on rentre dans une ère de prospérité pacifique. Ce dont on ne prend pas conscience tout de suite, c'est qu'en fait, avec cette prospérité, avec ces nouvelles technologies et avec ces nouveaux moyens de communiquer, on crée aussi des risques, et on crée des menaces, et progressivement, tout cela se manifeste. Et les Russes sont sans doute les premiers à se rendre compte que ce nouvel espace qu'on peut appeler le cyberespace ou l'espace de l'information, si vous voulez, ou l'espace numérique, il va prendre une part de plus importante dans nos sociétés. Il va être un lieu, effectivement, de compétition, de confrontation. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut investir. Et les Russes investissent massivement à cette époque-là. Et ils le disent, d'ailleurs. Il y a de nombreuses relations de chefs d'état-major, de présidents, M. Poutine en particulier, qui disent « Nous, on va créer des guerriers de l'information, des guerriers qui seront à la fois des techniciens et des guerriers qui seront aussi sur le contenu de l'information. » Et ce qui se manifeste aujourd'hui, en fait, c'est le fruit des investissements, en particulier en Russie, qui me semble être quand même l'acteur principal, mais bien ailleurs. Et là, les sociétés occidentales sont amenées progressivement à réagir, à prendre conscience, mais finalement, assez relativement tardivement, effectivement, tout ça se manifeste par l'attaque de l'Estonie, et là, une prise de conscience massive du fait que la cyberattaque, ce n'est pas le fait de cybercriminels uniquement, c'est le fait d'État ou de pseudo-État, et c'est là que commence vraiment l'histoire de la cybersécurité, à mon avis.
Jean-Louis Gergorin.
Je pense qu'il y a trois États, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le général, mais je pense qu'il y a trois États qui ont très tôt compris l'importance de la révolution numérique. Et dès la fin du précédent millénaire, si j'ose dire, c'est-à-dire dès la fin de la décennie 1990, les Russes, les Chinois et les Israéliens ont pris conscience qu'il s'agissait là d'un champ nouveau et très important, et notamment qui pouvait bousculer les rapports de force. Mmh. Ce qui était extrêmement important, les Russes et les Chinois avaient l'obsession de ne pas se laisser écraser et dominer par les Américains, et les Israéliens sont toujours effectivement en guerre permanente, toujours obsédés de, de ne pas prendre de retard et d'avoir une arme de supériorité sur leurs voisins. Et donc, ils ont tous les trois investi. Le général a tout à fait raison de dire que les Russes ont agi très tôt. Ils ont aussi agi très tôt au niveau diplomatique pour contester la domination américaine sur Internet. Les Chinois, dès la fin des années 90, et des déclarations de Jiang Zemin, on est encore à l'époque de Jiang Zemin, ont parlé du numérique comme étant une arme de guerre asymétrique pour compenser l'écart avec les Américains et en faisant remarquer que les Américains étant très numérisés, et la Chine l'étant beaucoup moins, elle avait un avantage. Et donc, dès la fin des années 90, début des années 2000, il y a des déclarations très claires de Jiang Zemin dans des réunions internes, mais qui ont été publiées dans la presse chinoise, pour dire « c'est en frappant l'adversaire dans ses nœuds numériques on va rétablir un équilibre ». Et puis les Israéliens ont, dès ce moment-là, fait un énorme effort à partir de leur capacité de renseignement, mais également pour développer une industrie, et ça s'est énormément développé dans les années 2000. Donc ces trois pays sont partis en avance. Même les Américains ont cru à leur supériorité absolue dans le domaine du renseignement. Ils ont utilisé avant tout le cyber pour le renseignement, et c'est l'obsession, ce que j'appelle la démesure, l'hubris américaine de tout savoir, tout connaître, beaucoup plus qu'ils ne peuvent jamais traiter. C'est un peu les excès de la NSA que Snowden a révélé. Mais en même temps, ils n'ont pas vu que c'était une révolution stratégique. Ils n'ont vu l'aspect purement militaire, que le cyber pouvait servir, serait un instrument. Par exemple, ils s'en sont servis en 2003 pour neutraliser les défenses antiaériennes irakiennes, juste au début. Mais un instrument militaire en temps de guerre. Ils n'ont pas vu ce que les Russes, les Chinois et les Israéliens ont vu, c'est que dès le temps de paix, le cyber était une arme offensive extraordinairement efficace.
Léo Zakdonien, par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, quel complément pouvez-vous nous apporter, toujours en réponse à cette question, est-ce que les pays ont pris la mesure du champ de conflictualité ?
Je compléterai, merci beaucoup, en soulignant deux choses. La première, c'est que c'est sûr que l'espace numérique, et notamment les risques qui sont liés aux cyberattaques, reposent sur deux ensembles qui sont fortement imbriqués, c'est cette dimension informatique et dimension informationnelle. Et c'est là qu'il y a une vraie différence, comme le soulignait Jean-Louis et le général, concernant la prise de conscience. C'est qu'en Occident, il y a eu un réel retard de prise de conscience de l'imbrication de ces deux domaines et de la capacité à utiliser les deux, notamment pour mettre à mal les démocraties. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, prise de conscience, au final, il faut pas oublier l'importance, je pense qu'on va en parler, du secteur privé dans ce domaine. Et ce qui est sûr, c'est que même s'il y a une certaine prise de conscience au sein de cercles militaires, de cercles stratégiques au sein de l'État, la prise de conscience au niveau du secteur privé est très différente d'un pays à l'autre, et même au sein du secteur privé est très différente. Certaines entreprises ont complètement pris la mesure du risque et des opportunités qu'offre cet espace, que ce soit pour des enjeux économiques ou parfois plus stratégiques. Et une grande part des entreprises, c'est l'un des vrais risques aujourd'hui, n'a pas du tout pris la mesure des risques géopolitiques liés au cyberespace.
Alors, vous avez parlé de la Russie, de la Chine et d'Israël comme étant les trois États qui ont finalement le plus vite réagi à cette omnipuissance américaine. Si on passe peut-être à un degré inférieur, il y a aujourd'hui des États qui ont atteint un degré de compétence en la matière. Je pense à l'Iran, général Palomeros.
Ah ben, c'est incontestablement l'Iran qui cherche à peser sur la scène internationale, on sait exactement dans quelles circonstances, est investi dans ce domaine. Même si c'est sans doute pas le domaine d'excellence, parce que pour l'Iran, il y a des enjeux très stratégiques. Il faut qu'elle pèse au Moyen-Orient. Et donc, on l'a vu encore récemment, d'autres moyens de peser. Mais cette stratégie d'information qu'on pourrait qualifier d'hybride, hein, c'est un peu le terme qu'on utilise pour expliquer que finalement les États peuvent utiliser en tout cas toutes les armes qui sont à leur disposition, l'information, on appelait ça préalable la propagande, c'est-à-dire stratégie d'influence, hein, sur les opinions, mais aussi des moyens plus concrets, physiques, la menace de développer un armement nucléaire, donc en jouant d'une manière très, très active et très subtile, d'ailleurs, sur tous les outils du pouvoir, effectivement, l'Iran s'appuie là-dessus. Et on ne peut pas contester, c'est à peu près évident, la compétence de l'Iran à intervenir dans le domaine du cyberespace. Ça ne me semble pas être aujourd'hui quand même leur outil de prédilection.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, sans pointer du doigt qui que ce soit, il y a cette attaque récente contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. dites, pourquoi finalement l'attaquant a privilégié le physique à ce qui aurait pu se passer dans le cyberespace de façon plus discrète? C'était précisément un besoin de se donner de la visibilité qui souhaite répondre. Jean-Louis Gerguerin?
Oui, moi je pense que les Iraniens ont compris quelque chose. Après l'opération du drone américain qui avait été abattu par la défense antiaérienne iranienne, et où Trump a dit « annuler au dernier moment une frappe militaire sur l'Iran qui aurait forcément fait des victimes » en disant « nous n'avons pas eu de mort, donc je n'attaquerai pas militairement, je ne veux pas tuer d'Iraniens ». Et il a répondu d'ailleurs par une cyberattaque, enfin il ne l'a pas dit mais ça c'est sorti après. Mais je pense que les Iraniens ont compris très clairement que Trump ne voulait pas faire la guerre, que c'était fondamental, c'était dans ses gènes, dans ce qu'il a dit dans sa campagne, dans ses engagements, de ne pas lancer l'Amérique dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de frapper un grand coup et de frapper des installations, pas des, justement avec très peu de victimes, mais avec des moyens matériels importants. Et c'est une performance technique dont on connaît mal les tenants et les aboutissants, et on n'en sait rien, mais je n'exclus pas du tout qu'il y ait eu un accompagnement cyber, parce que c'est quand même assez extravagant que la défense antiaérienne saoudienne, super équipée par les Américains, ait été totalement incapable de détecter une attaque aussi importante. Et donc, on peut se poser des questions, et tout est possible. Et je terminerai en disant que les Iraniens, quand même, sont allés très très vite dans les progrès en matière de cyber. Ils ont été frappés, vous l'avez rappelé, par une attaque, en fait, Stuxnet israélo-américaine ou américano-israélienne, qui a été révélée en juin 2010. Et dès le premier semestre 2011, ils ont réussi, en gros, 5 attaques, assez persistantes d'ailleurs, consistant à paralyser des interruptions de services informatiques d'une heure à peu près, dans 5 établissements financiers new-yorkais, et la Security Exchange Commission, l'autorité des marchés de surveillance. Et ça complètement traumatisé Obama, que les Iraniens pouvaient frapper à New York, alors qu'ils pensaient qu'il avait l'arme absolue. Et donc, c'est une démonstration de quelque chose qui nous paraît très important, qui est le pouvoir égalisateur du numérique. Mmh. Comme il y a un pouvoir égalisateur de l'atome, les rapports de force sont changés, modifiés, et le faible se rattrape en partie son retard sur le fort.
Général Palomeros, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Il ne faut jamais sous-estimer, et surtout pas dans le domaine du numérique. Le pire, c'est de sous-estimer l'adversité. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Et c'est tout l'équilibre qu'il faut maintenant trouver dans nos sociétés. Et il n'y a pas, à mon avis, d'alternative. C'est-à-dire qu'il faut, le faire d'une manière collaborative. C'est-à-dire que des pays qui ont des ambitions communes, des objectifs communs et des valeurs communes doivent s'associer. Pour moi, la véritable leçon de la décennie qui s'est passée, c'est que soit on aborde cet espace numérique en confiance et ensemble, soit on va à la guerre, entre guillemets, en ordre dispersé, et on n'a aucune chance de rétablir quelque ordre que ce soit. Donc c'est ça l'enjeu maintenant. C'est un enjeu, me semble-t-il, à la dimension de l'Europe. Et l'OTAN peut aussi, évidemment, apporter sa contribution dans les domaines les plus exigeants, des menaces les plus risquées, les plus fortes. Mais je crois que c'est ça la véritable leçon de l'histoire récente. C'est qu'il faut associer tous les acteurs, y compris, comme le disait Léo, les acteurs du privé. Ces grands, ces GAFAM, ces grands du numérique, qui jouent un rôle essentiel maintenant. Ce sont des vraies puissances. Et il faut, d'une manière ou d'une autre, trouver une collaboration avec eux pour faire avancer nos capacités à la fois défensive, voire offensive.
Alors, associer tous les acteurs, j'aimerais qu'on essaie de déterminer aujourd'hui quel est le degré de tension sur Internet, les risques d'escalade. Voilà, est-ce qu'on a aujourd'hui pleinement conscience des risques? On ne sait pas finalement où les lignes rouges sont réellement placées. Les risques, c'est quoi? Ils sont inhérents au fait qu'il y a une vraie difficulté à établir la paternité d'une action. Alors il y a risque d'erreur d'attribution des attaques, risque de débordement des attaques. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui et comment mesurer l'inquiétude par rapport à tout cela et notamment autour des risques d'escalade? Léo, Isaac Donien.
Déjà, il faut distinguer, encore une fois, les tensions sur le web qui sont liées au risque de piratage, que ce soit d'infrastructures critiques, et dans un deuxième temps, j'y viendrai, les tensions sur le web qui sont liées à toutes les activités qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, et plus largement, en fait, le risque de mettre à mal l'authenticité des contenus qui sont sur le web et de les manipuler à des fins stratégiques. Si on revient sur le premier sujet, c'est-à-dire ce que j'appelle le risque informatique, aujourd'hui, il y a un réel état de tension entre grandes puissances et puissances régionales. L'exemple qu'on peut prendre, c'est les informations qui ont été publiées par le département de la sécurité intérieure, donc Homeland Security américain, à l'été 2018, qui révélait qu'ils avaient découvert tout un ensemble d'implants dans des centaines d'entreprises qui alimentent le réseau électrique américain. Des informations comme ça, on en retrouve régulièrement. Et ce que ça montre, c'est que les grandes puissances utilisent les infrastructures critiques, s'assurent d'être présents sur les infrastructures de leurs adversaires pour pouvoir s'en servir dans un rapport de force plus global. En revanche, le risque d'escalade, pour le moment, important, mais maîtrisé par cet équilibre, en fait, qu'il y a entre la capacité, si on est concret, des États-Unis à paralyser la Russie et de la Russie à paralyser les États-Unis. On pourrait faire le même parallèle entre d'autres puissances. Le risque est beaucoup plus important, en revanche, pour les pays qui n'ont pas les moyens d'être aussi présents sur les réseaux de leurs adversaires. On pourra y venir. D'un point de vue contenu, je fais très simple. Là, en revanche, c'est un Far West. Les États n'ont pas encore trouvé de stratégie pour réussir à assurer l'authenticité des contenus et protéger notamment les démocraties contre ce type de risque. Et on se retrouve dans une situation compliquée où les entreprises se retrouvent par elles-mêmes à devoir mettre en place des structures. On pourra parler de Facebook qui a évoqué l'idée de mettre en place une cour suprême pour réguler les contenus qui sont publiés sur Facebook. Et en même temps, ce ne devrait pas être la responsabilité des entreprises de mener de telles initiatives.
Jean-Louis Gergorin.
Le risque, à mon avis, il est moins d'escalade que de désordre, d'insécurité grandissante. Et il se traduit, et c'est essentiellement dû au progrès de la technologie. D'abord, une règle de base en matière de cyber, c'est plus on se numérise, plus on se vulnérabilise. Or, actuellement, il y a une espèce, et comme l'entropie qui ne cesse d'augmenter, la numérisation s'accélère. Et toutes les entreprises, tous les États disent on fait de la transformation digitale, c'est très important, c'est urgent.
Parce que tout est connecté, c'est ça qu'il faut comprendre.
Et plus on est connecté, plus on est vulnérable, et y compris par exemple avec les caméras de surveillance, etc., qui peuvent servir de relais à des cyberattaques. Donc déjà, il risque d'avoir, les attaques se multiplient, et c'est ce qu'on constate. Et d'origine cybercriminelle, n'oublions pas la cybercriminalité. Il y a tout un continuum de la cybercriminalité aux actions des États. Deuxièmement, une technologie, enfin un savoir-faire extrêmement important, une science très importante, qui est l'intelligence artificielle, a deux conséquences. D'une part, elle permet d'améliorer, elle joue beaucoup plus, contrairement à ce qu'on espérait, pour l'attaque que pour la défense, parce que les attaquants peuvent apprendre énormément, justement, sur les moyens de contourner les défenses et peuvent apprendre à dissimuler les traces. L'attribution risque d'être de plus en plus difficile avec l'intelligence artificielle qui permet de laisser les traces d'un Coréen, c'est assez facile, ils sont assez connus, les gens du groupe Lazarus, nord-coréen, alors que vous êtes chinois ou russe ou américain. Et donc, l'attribution devient compliquée, de plus en plus compliquée. Et deuxièmement, l'intelligence artificielle, dans le domaine de la guerre d'information que Léo évoquait, permet d'atteindre de constituer des faux absolument redoutables, dont un qui est extrêmement important, parce qu'on va l'entendre de plus en plus parler, qui s'appelle les deepfakes, c'est-à-dire la manipulation par des outils d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, de deep learning, pour le mot technique, de vidéos complètement fausses, où on peut, par exemple, nous sommes dans ce studio, on peut reconstituer une émission avec nous quatre, à condition d'avoir quelques vidéos de base sur nous, où on dit des choses, les pires horreurs, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a dit, avec tous les attributs de l'authenticité. Et là, il s'agit de quelque chose qui va se développer et auquel on n'a pas encore trouvé de parade. Et donc, ça fait partie de cette escalade des menaces, mais non pas escalade au sens nucléaire, mais escalade des menaces qui sont de plus en plus pernicieuses.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-Louis Gergorin, Léo Isaac Denien et le général Palomeros après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la cyberguerre qui a fait son entrée au début de ce siècle, transformant le réseau global en un lieu de confrontation militaire majeure. Nous retrouvons nos invités, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant allié transformation au sein de l'OTAN, Jean-Louis Gergorin, ancien chef du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay et ancien vice-président en charge de la stratégie de ADS, fabricant d'Airbus, aujourd'hui conseiller international et enseignant à Sciences Po, et Léo Isaac Denien, consultant en transformation numérique. Jean-Louis Gergorin et Léo Isaac Denien qui sont, pour ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, les co-auteurs de Cyber, la guerre permanente aux éditions du CERF. Général Paloméros, les risques d'une escalade aujourd'hui, quelque chose d'incontrôlable, comme le disait Jean-Louis Gergorin, ou en tout cas création d'un vaste chaos, c'est ce qui menace aujourd'hui les pays dans leurs relations.
Potentiellement, oui. C'est vrai que ça a quelque chose d'effrayant. Si on voit l'évolution de l'espace numérique depuis sa création, il ne fait qu'augmenter, quoi. C'est créé par les hommes, mais les hommes, aujourd'hui, ont du mal à le maîtriser, finalement. Il y a une sorte de course en avant. Mmh. Et les pouvoirs en place, en tout cas les pouvoirs démocratiques, ont beaucoup de mal à reprendre la main. Ça, c'est un fait. Mais la guerre n'est pas perdue. Hein. Moi, je voudrais aborder cette question de la réponse. Parce que, oui, on va rentrer dans une ère où on aura une hyperconnectivité. On sait que, par exemple, les télécommunications 5G arrivent, et les Wi-Fi aussi très performants, la connexion des objets, l'Internet des objets. Donc, on va être dans cette société où il y a une numérisation croissante, ça a déjà été dit, des activités. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient des risques. Mmh. Ce qui s'est passé au début du 21e siècle, il faut en tirer toutes les leçons. Donc, il faut effectivement travailler ensemble. Et je crois que c'est ça maintenant la grande leçon de ce qui vient de se passer, pour tirer le meilleur parti de cette révolution numérique qui peut avoir une incidence considérable sur tous nos problèmes d'environnement, de santé, de sécurité, pour peu qu'on la transforme au bénéfice de la prospérité et, en ce qui nous concerne, de la démocratie. Mais ce qui veut dire aussi, c'est qu'il faut qu'on apprenne à défendre notre prospérité, notre démocratie, il faut qu'on apprenne à valoriser nos talents et il faut que, malgré tout, nos sociétés soient peut-être plus offensives, plus agressives, pour remonter, je dirais, reprendre l'initiative par rapport... Et on a les moyens de le faire. L'intelligence artificielle, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine et les États-Unis capitalisent 80% sans doute des recherches en la matière. C'est sûr que l'Europe n'est pas à sa place aujourd'hui dans ce domaine. Mmh. Et si elle ne prend pas toute sa place, les talents trouveront leur place ailleurs pour s'épanouir.
Alors précisément, on va parler de la France et de l'Europe. Quel est aujourd'hui le degré de maturité de la France en matière d'intrusion numérique? Est-ce que notre pays dispose d'un système de protection informatique performant? Quel est le principal défi à relever pour la France et au-delà, pour l'Europe? Jean-Louis Gergorin.
Je pense que la France a réagi, certainement peut-être un peu plus tard, effectivement, que les deux puissances autoritaires mentionnées et Israël, mais elle a réagi fortement à partir de 2008, et il faut rendre hommage à Jean-Claude Mallet, qui était le président de la commission du Livre Blanc désigné par Nicolas Sarkozy. C'est là où une vraie priorité à la menace en 2008 a été reconnue par la France, ce qui a entraîné d'une part la création de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information, qui est chargée de la cyberprotection interne et qui est, sous la direction actuelle très efficace de Guillaume Poupard, un outil très performant de protection et de définition de normes, et d'autre part, la création de ce qui est devenu, avec une étape intermédiaire, ce qu'on appelle actuellement au ministère de la Défense, le COMCYBER, le commandement de la cyberdéfense, qui est rattaché directement au chef d'état-major des armées, chargé à la fois de la défense, de la lutte informatique défensive, mais également de la contre-offensive, si on peut dire, avec la lutte informatique offensive. Et il y a un troisième volet où la France, depuis quinzaine d'années, a développé des capacités très importantes, qu'est le cyber-renseignement, qui est évidemment essentiel, parce qu'il n'y a pas de stratégie sans renseignement. Donc la France est bien organisée. Le problème, à mon avis, est plus quantitatif que qualitatif. Ces trois institutions sont au meilleur niveau technique, je pense, je suis convaincu, qu'il faudrait beaucoup plus de moyens par rapport à l'ampleur des menaces. Et d'autre part, on a un problème industriel. Ce problème industriel, c'est qu'en dépit de la qualité de nos chercheurs, de nos ingénieurs, le fait que dans le domaine qu'on évoquait, l'intelligence artificielle, la France est au premier niveau mondial. Tous les grands Américains s'installent à Paris pour en fait pomper, recruter des cerveaux français. Facebook, Google, Cisco, etc. Et en dépit de cela, notre tissu industriel et notre tissu de start-up est trop faible. Nos industriels ne sont pas dans les grands mondiaux de la cybersécurité, même les plus grands groupes. Et d'autre part, nous n'avons pas le tissu de start-up. Je vous donne simplement, je termine sur un chiffre, ça résume tout. La cybersécurité se développe énormément par les start-up. Investissement annuel en 2018 dans les start-up aux États-Unis, 3 milliards de dollars. Dans les start-up cyber, de cybersécurité. Investissement en Israël, deuxième pays mondial, 1 milliard de dollars. Investissement au Royaume-Uni qui, tardivement, mais de façon très énergique, a pris le problème à bras-le-corps, 300 millions de dollars. Investissement français et allemand, un peu moins de 100 millions de dollars. On n'est pas du tout au niveau, non seulement des États-Unis, mais d'Israël et du Royaume-Uni. Donc c'est un problème majeur.
Léo Isaac, donnez un commentaire sur ce qui s'est dit et peut-être...
Un élément à ajouter, c'est qu'un champ dans lequel la France fait aussi une très belle performance depuis quelques années, c'est son investissement au niveau diplomatique sur ces sujets. On peut penser donc à l'appel de Paris pour la paix et la stabilité dans le cyberespace qui avait été poussé par le gouvernement actuel et proclamé en novembre 2018. Et de manière générale, beaucoup d'efforts diplomatiques de la part de la France pour amener toutes les parties prenantes étatiques autour d'une table et essayer de mettre en place des instances de dialogue et puis des principes de fonctionnement à la fois pour protéger les États, les entreprises et les citoyens d'intrusion, de piratage, mais également pour travailler avec les entreprises, notamment de la Silicon Valley, sur la régulation des activités sur les réseaux sociaux et plus largement des contenus en ligne. Tout ça, c'est un effort qu'il faut saluer. Et une autre initiative qu'on peut souligner qui vient d'être annoncée, c'est la naissance d'une ONG, le Cyber Peace Institute, qui va opérationnellement être pilotée par un Français également, Stéphane Duguin, qui jusqu'ici était chez Europol. C'est une initiative importante, multilatérale, et qui va être financée par les anciens du numérique, Microsoft et Hewlett-Packard en premier. Et c'est évident que la France a joué un rôle important pour mettre en place ce type d'institution. Ça reste trop peu. Il faut des institutions qui ne soient pas des ONG et qui permettent un dialogue comme il existe sur les sujets nucléaires depuis des décennies, et également comme il existe pour assurer la sécurité au niveau de l'aviation civile.
Alors, on l'a bien compris, il faudrait des codes de conduite, alors peut-être lesquels prioritairement. Et est-ce que ce Cyber Peace Institute qu'évoque à l'instant Léo Isaac de Denien est un premier pas vers, je crois que c'est Jean-Louis Gergorin qui le souhaite, une organisation internationale de la cybersécurité?
Non, mais c'est Jean-Louis Gergorin. Il y a un paradoxe, c'est que le numérique et Internet est une infrastructure mondiale absolument majeure. Et d'autre part, cette infrastructure est menacée, il y a une cybercriminalité. Donc tout ceci, il n'y a aucune organisation mondiale qui est en charge de la sécurité. Pour l'aviation civile, on a l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Pour la sécurité du nucléaire, on a l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour la santé, qui n'est pas une infrastructure, mais où il y a des épidémies, il y a l'Organisation mondiale de la santé. Il n'y a rien de tel, rien, aucune agence des Nations unies, contrairement à ces trois agences que je viens de mentionner, n'est en charge de la sécurité d'Internet. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, les fondateurs d'Internet, des gens admirables, mais très idéalistes, étaient absolument persuadés que Internet et le web, ensuite, comme ils disaient, les gentils allaient éliminer les méchants naturellement. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. C'est plutôt les méchants qui ont proliféré. Et deuxièmement, les gouvernements, à cause de l'utilisation à des fins de renseignement, notamment le gouvernement américain, mais pas seulement, ne souhaitaient pas une telle organisation. Mais maintenant, il y a un risque. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, et comme Léo l'a rappelé, Emmanuel Macron, avec l'appel de Paris pour la paix et la sécurité dans l'Internet du 12 novembre 2018, a lancé un mouvement. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut que, de la même façon que le danger nucléaire a amené à l'arms control et aux accords de contrôle des armements qui ont tenu bon jusqu'aux péripéties récentes avec l'administration Trump, de la même façon, l'insécurité numérique nécessite une organisation internationale. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, y compris chez les Russes. Vous savez, ce que les Russes qui veulent, c'est un statut égal. Et ils ont réussi à être la deuxième superpuissance, quasiment à égalité avec les Américains, avec moins de moyens, mais avec une capacité de nuisance qui se fait respecter. Et les Chinois le sont moins, parce que les Chinois, ils ne cherchent qu'une chose dans le cyber, c'est le renseignement économique et technologique. Et ils ont tout mis là-dessus. Mais sur l'aspect géostratégique, c'est les Russes et les Américains. Et donc, je pense qu'on est, le temps est mûr pour une telle négociation. Il faut que les superpuissances négocient. Et comme ça, on aura une agence.
Alors, comment, Général Paloméros, aboutir à une telle organisation internationale de la cybersécurité?
C'est intéressant, là. Moi, je souscris à ce qu'ont dit Léo et Jean-Louis. Mais finalement, quelle est la grande absente ou le grand absent dans ce débat? Finalement, c'est l'Europe. Où se situe-t-elle par rapport à ces superpuissances, ces titans, en quelque sorte, qui sont en train de s'affronter par Internet interposé? D'ailleurs, l'Internet chinois ou l'Internet russe n'ont rien à voir avec l'Internet dont nous bénéficions ici. On n'est pas rentré dans un monde global et égalitaire. Hein. C'est un vrai sujet. L'existence même d'Internet, me semble-t-il, est menacée à terme. Mais pour revenir sur l'Europe, l'Europe est à un tournant de son histoire, à bien des égards. Le Brexit en étant un des éléments, mais surtout vis-à-vis de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire cet espace numérique. À mon sens, soit l'Europe prend conscience que son avenir, c'est de prendre position d'une manière déterminante avec ses compétences, avec ses valeurs, avec ses objectifs, et là elle pèsera, et elle pèsera dans les institutions internationales, comme elle l'a fait dans l'Organisation mondiale du commerce, comme elle le fait encore, et c'est ce qui lui donne à la fois sa raison d'être, mais aussi son influence. Soit elle passe à côté de cette dimension stratégique et prospective, et là, à mon avis, elle n'existera plus en tant que telle. Donc c'est là que se situe maintenant l'enjeu. On va avoir une nouvelle commission, on a des gens très compétents qui comprennent les problèmes, on les aborde parfois un peu par le petit bout de la lorgnette, mais il faut bien y aller d'une manière ou d'une autre. Taxer les GAFAM, c'est une bonne approche. Le règlement général sur les protections de données, c'est une autre bonne approche pour garder une certaine souveraineté dans cet espace numérique. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et moi, je souhaite, j'espère, et j'incite vraiment tous les responsables européens à se pencher et à définir une stratégie commune pour cet espace numérique. Ça, c'est vraiment l'enjeu capital. Sinon, les grandes puissances continueront à jouer leur jeu. Et ne considérons l'Europe que comme un marché, comme un autre, avec des clients, et viendront faire leur marché également dans nos compétences et nos cerveaux que nous formons dans un système éducatif à grand prix. Et l'Europe ne comptera pas dans l'enjeu. La dimension européenne est fondamentale pour protéger nos démocraties parce qu'elles sont en jeu. On l'a vu, les élections aujourd'hui sont des enjeux capitaux, partout d'ailleurs, un peu partout dans le monde, avec des influences sur le fond, sur le contenu, des cyberattaques, des risques de déstabilisation. Il est clair que si un pays de l'Europe est déstabilisé, c'est toute l'Europe qui est déstabilisée. Pour moi, c'est ça l'enjeu des 10 années qui viennent, c'est l'investissement européen, c'est l'Europe qui définit sa politique et sa stratégie dans le domaine du numérique et qui essaye de tirer le meilleur parti de cet espace en donnant le bon exemple et en influant sur les institutions internationales.
Alors, quelles actions concrètes, finalement, à vous entendre, Général Paloméros, on l'a bien compris, il faut une stratégie commune, il faut aller plus loin et protéger nos démocraties. Quelles sont les priorités et par quoi tout cela passe? Jean-Louis Gergerin.
Je suis d'accord avec le Général Paloméros sur la nécessité de rassembler les forces européennes. L'Europe devrait équilibrer les trois cyber-superpuissances que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais en réalité, on a des difficultés qui tiennent au fait que les mécanismes européens tels qu'ils sont, de quasi-unanimité nécessaire, même si ce n'est pas légal, c'est souvent ce qui se passe, ralentissent. Donc il faut une Europe à la carte. Il faut l'Europe de ceux qui veulent et peuvent.
Alors, qui sont ceux qui veulent le plus en Europe aujourd'hui? Si on devait constituer une Europe à la carte, un petit groupe, vous voyez les choses comment, Jean-Louis Gergerin?
Alors, attendez, il y a ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Ceux qui peuvent, il y a certainement la France, la Grande-Bretagne, mais avec le problème spécifique du Brexit, qui ne va pas du tout faciliter les choses, plus le lien spécifique américano-britannique en ces matières. L'Allemagne, qui peut certainement. Et puis, vous avez des pays qui peuvent aussi et qui veulent en même temps, ce qui est le cas de la France. La France veut et peut. Vous avez 3 pays, probablement plus, mais vous avez les Pays-Bas, vous avez la Suède et vous avez l'Estonie et probablement, mais je ne sais pas, le général Paloméros le sait, les 2 autres pays baltes, qui peuvent, qui ont des capacités ciblées, évidemment, pas quantitativement, qualitativement, de très grande qualité. Et eux, ils veulent et ils peuvent. Et donc là, vous avez une Europe à la carte. Et puis vous avez un pays, je le dis très franchement, que j'admire beaucoup, qui est un autre partenaire privilégié, qui est l'Allemagne, qui hésite, parce que l'Allemagne, à la difficulté d'accepter la conflictualité dans le cyberespace, comme elle a la difficulté à accepter la conflictualité en général dans le monde, et en même temps, elle est soumise à des, comment dirais-je, à des pulsions nationalistes, ou en tout cas autarciques, qui sont revenues. L'Allemagne a créé récemment une grande agence d'innovation, reprenant le thème d'une DARPA européenne, mais au niveau national. Alors, dans l'esprit même du discours du président de la République à la Sorbonne, mais ce n'est pas franco-allemand, c'est purement national, pour allemand, pour des emplois allemands, etc. Donc, il y a cette espèce de problème allemand, et c'est un défi fondamental, à mon avis, pour la France, dans son dialogue avec, probablement, il faudra attendre la succession de Mme Merkel, parce que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose.
DARPA étant ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, au sein du ministère de la Défense. En guise de conclusion, j'aimerais reprendre ce qu'a dit le général Palomeros précédemment, l'existence même d'Internet est menacée. Général Palomeros.
Elle est menacée parce que, si vous voulez, les fondements sur lesquels Internet a été bâti, c'est-à-dire ce magnifique outil de partage, d'échange et de prospérité mondiale, c'est-à-dire l'outil de la globalisation, quelque part, est contesté, évidemment. Les autocraties ont tout de suite perçu les risques associés à cette démocratisation, en quelque sorte, de l'information. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, à quelque chose près, il y a 50% de la population mondiale qui n'est pas encore connectée à Internet. Donc, tout est à venir. Il y a quelque chose derrière tout ça, c'est finalement réinventer ce réseau superbe qui était dans l'esprit et même dans les faits, qui a été Internet et qui a apporté énormément depuis sa création. Mais avec cette dimension de sécurité, l'Europe, elle n'a pas tout de suite pris conscience, quand elle s'est construite, qu'on avait besoin de sécuriser. On a créé Schengen et maintenant on réfléchit à la sécurisation des frontières. On est un peu dans le même paradoxe. On a créé un vaste espace numérique. Il s'est créé d'ailleurs au fur et à mesure, mais on n'a pas pensé qu'il était bon de le sécuriser. Maintenant, on est complètement conscient qu'il faut le sécuriser, mais on ne sait pas trop comment faire. Eh bien, on a des talents. Il faut, c'est vrai, il faut investir. Ce sont des choix, des priorités stratégiques. Je pense que la France l'a assez bien compris. Elle peut sans doute faire mieux et plus, mais déjà, elle fait beaucoup. Il faut qu'elle entraîne d'autres pays. Je signale par ailleurs qu'en Europe, il existe des centres d'excellence qui sont à la fois des centres d'excellence pour l'OTAN, pour l'Union européenne. Il y en a un en Estonie qui s'occupe de cybersécurité. Il y en a un en Lettonie qui s'occupe de communication stratégique, c'est-à-dire de guerre de l'information, pour parler clairement. Il y en a un en Lettonie qui s'occupe de sécurité énergétique. Il y en a un en Finlande qui s'occupe des guerres hybrides. Donc, il y a des capacités et des compétences à mettre en évidence. Je pense qu'il y a urgence à agir.
Léo Isaac-Denien.
Ce qui est sûr, c'est que si rien n'est fait, l'Internet va se fracturer. Les États, en réalisant ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, plus on se numérise, plus on se vulnérabilise, se disent que la seule solution, c'est de monter un Internet autonome qui peuvent brancher et débrancher de l'Internet mondial en fonction des situations. Bon, la Chine a déjà adopté cette stratégie, la Russie va dans ce sens, et il y a des réflexions au sein de l'Occident. Ça casserait l'atteinte de tous les objectifs que mentionnait le général. Il faut empêcher cela absolument.
Jean-Louis Gergorin.
Moi, je pense qu'il faut être réaliste. On n'arrivera pas à revenir à l'Internet idéal parce que les États autoritaires, et pour le moment, ils sont là, la Russie, la Chine, même l'Iran et d'autres, veulent établir une souveraineté numérique, c'est-à-dire en fait pouvoir censurer l'Internet. Malgré tout, il y aura une partie commune et il faut que dans cette partie commune, il y ait une organisation de la sécurité. Ça implique des organisations internationales, l'action des privés, mais aussi que les grandes puissantes acceptent de négocier. Et c'est là où la géopolitique du cyber reçoit la géopolitique tout court, c'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait de véritables négociations entre les très grandes puissances qui jusqu'ici sont gelées.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Jean-Louis Gergorin, je rappelle que vous êtes ancien chef du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay et ancien vice-président en charge de la stratégie de EADS, fabricant d'Airbus. Aujourd'hui, conseiller international et enseignant à Sciences Po, et vous êtes le co-auteur avec Léo Isaac Denien de Cyberguerre, la guerre permanente aux éditions du CERF. Léo Isaac Denien, qui est consultant en transformation numérique et chef de projet chez Capgemini, et le général Jean-Paul Palomeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et commandant alliés et transformation au sein de l'OTAN. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain. Docteur Denis.